Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver comme d'habitude dans le cadre de nos conversations. Et aujourd'hui avec vous, Daniel, eh bien, on va revenir sur l'accord de normalisation ou plutôt de reprise des relations qui s'est fait entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, le tout sous l'égide de la Chine. Et cet accord, Daniel, il est tellement important et on a entendu tellement de commentaires épars dans tous les médias finalement que nous, eh bien, dans le cadre de nos conversations, on aimerait bien faire le point sur cet accord avec vous, mais plus en profondeur. Alors, la première question, Daniel, qui est gagnant dans le cadre de cet accord?
Comme d'habitude, tout le monde est gagnant. La Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et peut-être la question est de savoir si les autres sont gagnants. On le verra peut-être si vous me posez la question. Alors, qui est gagnant? Je pense que la Chine, évidemment, et ça, je pense que les commentaires l'ont bien perçu, a marqué un grand point. Il était jusqu'ici, au Moyen-Orient, un acteur économique. Il devient ipso facto un acteur géopolitique. Et on le savait, on savait pas dans quelle direction. C'est vrai que ça a été une surprise, alors qu'en fait, on apprend que ça fait 2 ans que les Iraniens et les Saoudiens en parlent sous l'égide de Pékin. Mais la Chine, donc, a marqué un grand point. Jusqu'ici, elle était donc un acteur économique qui achetait du pétrole et qui vendait beaucoup de choses. Elle avait commencé à faire un pas vers cet aspect géopolitique en signant ce qu'on appelle des partenariats stratégiques, c'est-à-dire des accords à long terme avec des grands pays. Elle avait commencé avec l'Iran pendant 5 ans, autour de 400 milliards de dollars, les Chinois et les Iraniens se promettaient de vendre du pétrole, de vendre des infrastructures. Et les Iraniens pensaient être les seuls au monde à avoir un grand ami comme la Chine. Mais puis on a vu que les Chinois ont fait exactement la même chose avec les Saoudiens. Parce qu'au fond, le projet chinois, et ça, il faut jamais l'oublier, c'est les routes de la soie. Et la Chine, au fond, pour pouvoir faire de l'économie, a besoin de paix. Et donc, en signant un accord où les gens qui étaient des ennemis, et qui restent d'ailleurs des ennemis, l'Arabie Saoudite et l'Iran, au moins se parlent, jouent le rôle de garant de paix. Donc, c'est vraiment un point marqué par la Chine. Alors, quant à l'Arabie Saoudite, on voit bien combien MBS, Mohamed Ben Salman, a été humilié par les Américains. Au moment de l'affaire Khashoggi, les Américains ont dit, on va faire de l'Arabie Saoudite le paria de l'humanité. Vous vous rendez compte? Or, Mohamed Ben Salman, c'est le petit-fils de Ibn Saoud, dont il a la taille et l'ambition. Ibn Saoud, c'est le créateur de l'Arabie Saoudite. C'était son grand-père. Je suis pas sûr qu'il l'ait connu ou qu'il l'ait fait sauter sur les genoux, mais c'est très possible. Et donc, ce grand-père, Ibn Saoud, avait signé avec Franklin Roosevelt un accord pour toujours sur un bateau, Roosevelt revenant de Yalta. Ibn Saoud était venu, ils avaient dit, voilà, nous les Américains, on va garantir la survie de votre famille, la famille des Saoud, dont Salman est le petit-fils, pour toujours. Vous serez les rois de l'Arabie Saoudite, et en contrepartie, vous nous garantissez du pétrole. Et donc cet accord, il est toujours là. Et donc le fait pour les Américains de s'en prendre presque que personnellement à Ben Salman, ça a été vécu comme une humiliation. Et puis, il n'y a pas que ça. Les Saoudiens, c'est un grand pays aujourd'hui, 30 millions d'habitants ou plus, un des pays les plus riches du monde, avec beaucoup d'ambition. Et donc, ils ont, comme d'ailleurs les autres pays de la région, comme les Iraniens, comme les Turcs et comme Israël, envie d'avoir plus d'autonomie par rapport aux Américains ou par rapport aux autres, d'autonomie stratégique. Et donc, ils regardent un petit peu la carte du monde et ils voient que les Américains sont pas des garants aussi sûrs qu'ils l'étaient avant. Les Saoudiens ont profité de l'arrivée de la Chine au Moyen-Orient pour dire, mais écoutez, nous, on parle à tout le monde. Et donc, en jouant un petit peu la carte américaine et chinoise, les Saoudiens montrent la voie à d'autres pays. Les Turcs font la même chose et même Israël est tenté de faire la même chose. Donc, c'est une démarche assez naturelle de puissance moyenne, ambitieuses, qui ont de l'argent et qui disent, nous ne sommes pas les petits-enfants des Américains, nous sommes les enfants de personne, nous avons notre autonomie. Donc, pour l'Arabie Saoudite, ça a été le moyen de marquer un point dans son autonomie. Quant à l'Iran, moi, je pense que c'est le vrai gagnant. Je pense que c'est le vrai gagnant parce que, si vous voulez, l'Iran est un peu lui est un paria d'un certain nombre de la plupart des pays parce que c'est un pays agressif qui veut la bombe, qui met un peu le bazar dans tout le Moyen-Orient et dans le monde entier. Donc, or tout d'un coup, Ils se présentent comme des gens raisonnables. Ils parlent avec leur pire ennemi, les Saoudiens, alors avec lesquels, au fond, les conflits sont toujours là. La guerre au Yémen, elle s'est faite pour des bonnes raisons, donc on va peut-être trouver des accommodements, mais les ennemis sont toujours là. Et puis, ce sont deux leaders de deux camps opposés, le leader des sunnites et le leader des chiites. Et ça fait plus de 1000 ans que ça dure et ça va pas se terminer comme ça. Donc, l'Iran, elle a marqué un point et je ne serais pas étonné que l'Iran marque un deuxième point bientôt, on verra, on en parlera à conversation, en disant le retour des Américains à l'accord nucléaire, pourquoi pas? Parce que regardez, une des raisons pour laquelle aujourd'hui l'Iran est au fond plus tranquille, c'est qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Pratiquement, ils ont la bombe. Lorsqu'ils ont annoncé que l'enrichissement avait atteint 84%, alors que l'enrichissement de la bombe, c'est 90%, ça veut dire qu'ils sont déjà ce qu'on appelle des pays du seuil. Un pays du seuil. C'est-à-dire que, à partir du moment où ils le décideront, ils auront la bombe. Et donc, à partir du moment-là, ce moment-là, ce qui leur manque maintenant, c'est l'argent. C'est les sanctions. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils essaient de tirer des Américains la fin des sanctions en promettant, ce que les Américains veulent, puisque de toute façon, ils ont déjà ce qu'ils voulaient. Donc, j'espère que ça ne se passera pas comme ça, parce que ce serait une catastrophe pour Israël si l'Iran avait et la bombe et de l'argent.
Alors justement, Daniel, on y répond presque, hein, finalement, mais cet accord en lui-même, outre le fait que l'Iran soit gagnant sur tous les points, dans cet accord, est-ce qu'il est bon, finalement, pour Israël?
C'est toujours la bonne question. Est-ce que c'est bon pour les Juifs? Alors, si vous voulez, la première réaction, on a vu, elle est assez, au fond, négative. C'est venu par les ennemis politiques de Bibi qui ont dit, en gros, Bibi s'occupe tellement de la Cour suprême qu'il n'a plus le temps de s'occuper de politique extérieure. Et vous voyez ce qui arrive quand il ne s'en occupe pas. Bon, tout le monde sait que Israël n'a aucun levier pour empêcher cet accord. Il s'est fait en dehors de lui. L'Iran et l'Arabie saoudite et la Chine n'ont pas demandé à Israël quoi que ce soit. Donc, d'ailleurs, Bibi a très bien résumé l'affaire en disant, ils se parlent très bien. Il a rejoint exactement la position de Biden qui a dit, ils se parlent, c'est très bien. Donc, ils ont pris ça avec beaucoup de philosophie, si vous voulez. Alors maintenant, une fois que la réaction épidermique et politicienne est partie, quelle est la réalité? Les faits, c'est qu'aujourd'hui, Israël, on sait, parle avec l'Arabie saoudite, et donc l'objectif, c'est d'amener l'Arabie saoudite soit dans les accords d'Abraham, soit un accord spécifique entre Israël et l'Arabie saoudite, pour en gros faire un front commun, non pas pour attaquer l'Iran, mais pour se prémunir contre l'agressivité iranienne. Et donc le fait pour les Saoudiens de parler à l'Iran ne veut pas dire que l'Iran a cessé d'être une menace pour l'Arabie saoudite. Simplement, l'Arabie saoudite se demande qui garantit la sécurité de l'Arabie saoudite. C'était les Américains. Or, on a vu que le jugement des Arabes et d'ailleurs des autres pays, je pense à Erdogan et même à Israël, c'est une question sur quelle confiance on a sur la garantie de sécurité des Américains, sachant qu'ils ont pivoté et que leur problème principal, c'est la Chine. Maintenant, c'est l'Europe. Le Moyen-Orient est une troisième priorité. Sachant que quand les Houthis ont utilisé des drones iraniens pour bombarder les installations pétrolières de l'Aramco, personne n'a bougé, surtout pas les Américains. Ça a beaucoup inquiété les Saoudiens. Donc, si vous voulez, Israël à la confiance des Émirats et à la confiance des Saoudiens pour faire front commun contre l'Iran, mais ils savent bien, les Arabes, qu'Israël ne peut pas agir tout seul contre l'Iran. C'est un trop gros morceau. Une agression sur l'Iran aujourd'hui, quelle que soit sa forme, entraînerait des réponses multiples qui seraient non seulement de l'Iran, mais aussi de tout le front du Nord, Syrie, Irak et évidemment Hezbollah. Voilà, le Hamas à Gaza et puis les Palestiniens des territoires et même les Palestiniens, les Arabes israéliens. Donc ce serait une grande effervescence. Donc Israël ne va pas s'aventurer sans avoir un accord très profond avec les Américains. Et on sent bien que les Américains sont encore en train de négocier avec les Iraniens. Donc on est dans une période en gros d'incertitude. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui si c'est bon ou si c'est mauvais pour Israël. Moi, j'ai l'impression que pour Israël, l'implication de la Chine au Moyen-Orient, ça apporte une tendance à la paix, à l'apaisement. Plus les Chinois sont présents à la fois avec les Iraniens, mais aussi avec les Saoudiens, mais aussi avec les Turcs, mais aussi avec Israël, moins au fond, un conflit à l'intérieur du Moyen-Orient a deux sens. Parce que les Iraniens s'en prenaient par exemple à Israël, ils s'en prendraient en même temps au fond à la Chine qui a beaucoup d'intérêt en Israël. Donc si vous voyez, on est dans une période où on ne peut pas encore dire que c'est bon ou mauvais pour Israël. C'est une évolution. Je pense que c'est le début de quelque chose. Donc il faut encore attendre et nous aurons donc d'autres rendez-vous, j'espère, ensemble à conversation pour analyser ce qui va se passer.
Bien évidemment, Daniel, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour tous vos éclairages, Daniel Haber, et comme chaque fois, très bonne semaine et à la semaine prochaine.
Au revoir.